Chapitre 7, troisième partie. La plaine ressemble à celle d'hier, plus verte cependant et un peu plus boisée. Les blés, semés en sillons comme les nôtres, poussent à miracle dans ce sol qui semble fait de sable et de cendres. D'ailleurs, tout devient moins désolé à mesure que l'on s'éloigne de la région de Pékin pour s'élever par d'insensibles pentes vers ces grandes montagnes de l'ouest qui apparaissent de plus en plus nettes en avant de nous. Le vent jaune aussi souffle moins fort, et dans les instants où il s'apaise, quand s'abat l'aveuglante poussière, on dirait les campagnes du nord de la France, avec ses sillons partout, ses bouquets d'ormeaux et de saules. On oublie qu'on est au fond de la Chine, sur l'autre versant du monde. On s'attend à voir dans les sentiers passer des paysans de chez nous. Mais les quelques laboureurs courbés vers la terre ont sur la tête de longues nattes relevées en couronne et leurs torses nus sont comme teints au safran. Tout est paisible dans ces champs inondés de soleil, dans ces villages bâtis à l'ombre légère des saules. En somme, les gens ici vivaient heureux, cultivant à la façon primitive le vieux sol nourricier et régi par des coutumes de 5 000 ans. À part les exactions peut-être de quelques mandarins, et encore est-il beaucoup de mandarins débonnaires, ces paysans chinois en étaient presque restés à l'âge d'or, et je ne me représente pas ce que seront pour eux les joies de cette Chine nouvelle rêvée par les réformateurs d'Occident. Jusqu'à ce jour, il est vrai, l'invasion ne les a guère troublés, ceci. Dans cette contrée que nous, Français, occupons seuls, nos troupes n'ont jamais eu d'autre rôle que de défendre les villageois contre les bandes de boxers pillards. Le labour, les semailles, tous les travaux de la terre ont été faits tranquillement en leur saison, et il est impossible de n'être pas frappé de la différence avec certaines autres contrées que je ne puis trop désigner, où c'est le régime de la terreur et où les champs sont restés en friche, redevenus des steppes déserts. Vers 4h30 du soir, sur le fond découpé des montagnes qui commencent de beaucoup grandir à nos yeux, une ville nous apparaît comme hier, d'un premier aspect formidable avec ses hauts remparts crénelés. Comme hier aussi, un cavalier arrive au-devant de moi, le capitaine qui commande le poste d'infanterie de marine installé là depuis l'automne. Des veilleurs du haut des murs nous avaient devinés de loin, aux nuages de poussière soulevés par nos chevaux dans la plaine. Et dès que nous approchons, nous voyons sortir des vieilles portes le cortège officiel qui vient à ma rencontre. Mêmes emblèmes qu'à l'ail chouchien, même grand papillon noir, même parasol rouge, même cartouche et même bannière. Tout cérémonial en Chine est réglé depuis des siècles par une étiquette invariable. Mais les gens qui me reçoivent aujourd'hui sont beaucoup plus élégants et sans doute plus riches que ceux d'hier. Le mandarin, qui est descendu de sa chaise à porteur pour m'attendre au bord de la route, après m'avoir fait remettre à 100 pas de distance sa carte de visite sur papier écarlate, se tient au milieu d'un groupe de personnages en somptueuse robe de soie. Lui-même est un grand vieillard distingué, qui porte à son chapeau la plume de paon et le bouton de saphir. Et la foule est énorme pour me voir faire mon entrée, au son funèbre du gong, au long gémissement des crieurs. Des figures garnissent le faîte des remparts, regardant entre les créneaux avec de petits yeux obliques, et jusque dans l'épaisseur des portes, il y a des bons hommes à torse jaune plaqués en double haie contre les parois. Mon interprète cependant me confesse qu'on est généralement déçu. « Si c'est un lettré, demandent les gens, pourquoi s'habille-t-il en colonel ?» On sait le dédain chinois pour le métier des armes. Mon cheval seul relève un peu mon prestige. Assez fatigué par la campagne, ce pauvre cheval d'Algérie, mais ayant encore du port de tête et du port de queue lorsqu'il se sent regardé, et surtout lorsque le gong résonne à ses oreilles. Icheu, la ville où nous voici enfermés dans des murs de 30 pieds de haut, contient encore une 15aine de 1000 habitants, malgré ses espaces déserts et ses ruines. Et il y a grande affluence de monde sur notre parcours, dans les petites rues, devant les petites échoppes anciennes où s'exercent des métiers antédiluviens. C'est d'ici même qu'est parti l'année dernière le terrible mouvement de haine contre les étrangers. C'est dans une bonzerie de la montagne voisine que la guerre d'extermination a été d'abord prêchée, et tous ces gens qui m'accueillent si bien ont été les premiers boxers. Ardemment ralliés pour l'instant à la cause française, ils décapitent volontiers ceux des leurs qui n'ont pas transigé et mettent les têtes dans ces petites cages dont les portes de leur ville sont garnies. Mais si le vent tournait demain, je me verrais déchiqueté par eux au son de la ferraille de leur même gong et avec le même entrain qu'ils mettent à me recevoir. Quand j'ai pris possession du logis qui m'est destiné, tout au fond de la résidence mandarine, au bout d'une interminable avenue de vieux portiques et de vieux monstres gardiens qui me montrent leurs crocs dans des sourires de tigre, une demi-heure de jour me reste encore, et je vais faire visite à un jeune prince de la famille impériale, détaché à Itcheu pour le service des vénérables tombeaux. D'abord, la mélancolie de son jardin, par ce crépuscule d'avril. C'est entre des murs de briques grises, c'est très fermé, au milieu de la ville déjà si murée. Grises aussi, les rocailles dessinant les petits carrés, les petits losanges où fleurissent de larges pivoines rouges, violettes ou roses, qui sont très odorantes, contrairement à celles de chez nous, et qui remplissent ce soir le triste enclos d'un excès de senteurs. Il y a aussi des rangées de petits bassins en porcelaine où habitent de minuscules poissons monstres, poissons rouges ou poissons noirs, empêtrés dans des nageoires et des queues extravagantes qui leur font comme des robes à falbala. Poissons chez lesquels on est arrivé à produire, par je ne sais quelle mystérieuse culture, des yeux énormes et effrayants qui leur sortent de la tête comme ceux des dragons héraldiques. Les Chinois qui torturent les pieds des femmes déforment aussi les arbres pour qu'ils restent nains et bossus, les fruits pour qu'ils aient l'air d'animaux et les animaux pour les faire ressembler aux chimères de leurs rêves. Il fait déjà sombre dans l'appartement du prince qui donne sur ce petit jardin de prison et on n'y aperçoit d'abord en entrant qu'un flot de soie rouge, les longs baldaquins retombant de plusieurs parasols d'honneur, ouverts et plantés debout sur des pieds en bois. Un air lourd, trop saturé d'opium et de muse. De profonds divans rouges sur lesquels traînent des pipes d'argent pour fumer ce poison dont la Chine est en train de mourir. Le prince, 20 ou 22 ans, d'une laideur maladive avec deux yeux qui divergent, est parfumé à l'excès et vêtu de soie tendre dans des gammes qui sont du mauve ou lilas. Ce soir, chez le mandarin, dîner auquel assiste le commandant du poste français, le prince, 2 ou 3 notables et un de mes confrères, un membre de l'Académie de Chine, mandarin à boutons de saphir. Assis dans de lourds fauteuils carrés, nous sommes 6 ou 7 autour d'une table que garnissent d'étranges et exquises petites porcelaines des vieux temps, petites, petites comme pour une dinette de poupée. Des cires rouges nous éclairent, allumées dans de hauts chandeliers de cuivre. Depuis ce matin, la province entière a quitté par ordre le bonnet hivernal pour prendre le chapeau d'été, conique en forme d'abat-jour de lampe, sur lequel retombent des touffes de crins rouges, ou suivant la dignité du personnage, des plumes de paon et de corbeau. Or, il est de bon ton de dîner coiffé, et cela fait tout de suite chine de paravent les chapeaux de ce style. Quant aux dames de la maison, elles demeurent invisibles, hélas! Et il serait de la dernière inconvenance de les demander ou même d'y faire allusion. On sait d'ailleurs qu'un Chinois obligé de parler de sa femme ne doit la désigner que d'une manière indirecte et autant que possible par un qualificatif sévèrement dénué de toute galanterie, comme par exemple « mon horripilante » ou « ma nauséabonde ». Le dîner commence par des prunelles confites et quantité de sucreries mignardes que l'on mange avec des petites baguettes. Il s'excuse, le mandarin, de ne pouvoir m'offrir des nids d'hirondelles de mer. Itcheu est un pays si perdu, si loin de la côte, il est si difficile de s'y procurer ce qu'on veut. En revanche, voici un plat d'ailerons de requin, un autre de vessie de cachalot, un autre encore de nerfs de biche, et puis des ragoûts de racines de nénuphar aux œufs de crevette. Dans la salle blanche au plafond noir, dont les murs sont ornés d'aquarelles, sur longues bandes de papier précieux, représentant des bêtes ou des fleurs monstrueuses, l'inévitable odeur de l'opium et du muse se mêle aux fumets des sauces étranges. Autour de nous s'empresse une vingtaine de serviteurs, coiffés comme leurs maîtres et vêtus de belles robes de soie avec corselets de velours. À ma droite, mon confrère de l'Académie de Chine me dit des choses de l'autre monde. Il est vieux et entièrement desséché par l'abus de la fumée mortelle. Sa petite figure réduite à rien disparaît sous le cône de son chapeau et sous les deux ronds de ses grosses lunettes bleues. « Est-il vrai, me demande-t-il, que l'empire du milieu occupe le dessus de la boule terrestre et que l'Europe s'accroche péniblement penchée sur le côté ?» Il paraît qu'il possède au bout de son pinceau plus de 40 000 caractères d'écriture et qu'il est capable, sur n'importe quel sujet, d'improviser des poésies suaves. De temps à autre, je vois avec terreur son petit bras de squelette sortir de ses belles manches pagodes et s'allonger vers les plats. C'est pour y cueillir, avec sa propre fourchette à deux dents, quelques bouchées de choix qu'il me destine, et cela m'oblige à de continuels et difficiles escamotages sous la table pour ne point manger ces choses. Après les mets saugrenus et légers, paraissent des canards désossés, et puis des viandes qui doivent se succéder de plus en plus copieuses, jusqu'à l'heure où les convives déclarent que vraiment cela suffit. Alors on apporte les pipes d'opium et les cigarettes, et voici l'instant de monter en palanquin pour aller à la fête nocturne que l'on m'a préparée. Dehors, dans la longue avenue des portiques et des monstres, où il fait nuit étoilée, tous les serviteurs du Yamen nous attendent avec de grandes lanternes en papier, peintes de chauves-souris et de chimères. Et une centaine d'aimables boxers sont là aussi, tenant des torches pour nous éclairer mieux. Nous montons chacun dans un palanquin, et les porteurs nous enlèvent au trot, tandis que toutes ces torches flambantes courent à nos côtés, et que les gongs, courant d'eux-mêmes, commencent en avant de notre cortège leur fracas de bataille. Très vite, pendant cette course, très vite défilent, éclairés par toutes ces lueurs dansantes, les petites échoppes encore ouvertes, les figures chinoises encore attroupées pour nous voir, et les grimaces de tous les monstres de pierre échelonnés sur la route. Au fond d'une immense cour, un bâtiment neuf sur la porte duquel se lit, à la lueur des torches, cette inscription stupéfiante « Parisiana d'Itcheu ». Des Parisianas dans cette ville ultra-chinoise qui jusqu'à l'automne dernier n'avait jamais vu d'Européens approcher ses murs. C'est là que nos porteurs s'arrêtent, et c'est le théâtre improvisé cet hiver par nos 60 hommes d'infanterie de marine pour occuper leur veillée glaciale. J'ai promis d'assister à une représentation de gala que ces grands enfants donnent pour moi ce soir. Et de tant de réceptions charmantes que l'on a bien voulu me faire ça et là par le monde, aucune ne m'a émue plus que celle de ces soldats, exilés en un coin perdu de la Chine. Leur discret sourire d'accueil, les quelques mots que l'un d'eux s'est chargé de me dire, de leur part à tous, sont plus touchants que nombre de banquets et de discours, et je serre de bon cœur les braves mains qui n'osaient pas se tendre vers la mienne. Afin que je garde un souvenir de leur hospitalité d'un soir à Itcheu, ils se sont cotisés pour me faire un cadeau très local, un de ces parasols de soie rouge à longs baldaquins retombants qu'il est d'usage en Chine de promener en avant des bons hommes de marque. Et si encombrante que soit la chose, même repliée, Il va sans dire que je l'emporterai précieusement en France. Ensuite, ils me remènent un programme illustré, sur lequel le nom de chaque acteur figure suivi d'un titre pompeux. Monsieur le soldat untel de la Comédie-Française, ou bien Monsieur le caporal untel du théâtre Sarah Bernhardt. Et nous prenons place. C'est un vrai théâtre qu'ils ont fabriqué là, avec une scène surélevée, une rampe et un rideau. Dans des fauteuils chinois qu'ils ont placés au premier rang, leur capitaine s'assied auprès de moi, puis le mandarin, le prince du sang et deux ou trois notables à longue queue. Derrière nous, les sous-officiers et les soldats, quelques bébés jaunes en toilette de cérémonie, se glissent aussi parmi eux, familièrement, ou même s'installent sur leurs genoux, les élèves de leur école, car ils ont fondé une école comme ceux de Lai Chouchien pour apprendre le français aux enfants du voisinage. Et un sergent m'en présente un impayable de 6 ans tout au plus, qui s'est mis pour la circonstance en belle robe, sa petite queue toute courte et toute raide, nouée d'une soie rouge, et qui sait me réciter le commencement de Maître Corbeau sur un arbre perché, d'une grosse voix, en roulant les yeux tout le temps. Les trois coups et le rideau se lèvent. C'est d'abord un vaudeville, de je ne sais qui, mais certainement très retouché par eux, avec une drôlerie imprévue à laquelle on ne résiste pas. Inénarrables sont les dames, les belles-mères qui ont des chevelures en étoupe. Ensuite se succèdent les scènes comiques et les chansons du chat noir. Les invités chinois sur leur fauteuil en forme de trône demeurent impassibles comme des bouddhas de pagode. Cette gaieté si française, quels aspects peut-elle bien prendre pour leur cervelle d'extrême Asie? Avant que soient épuisés les derniers numéros du programme, on entend au dehors le tonnerre soudain des gongs, le cliquetis des sistres et des cymbales, toutes les ferrailles de la Chine. Et c'est le prélude de la fête que le mandarin a voulu m'offrir, fête qui aura lieu dans la cour même du palais et à laquelle assisteront naturellement tous nos soldats. Les lanternes à profusion illuminent cette cour avec les torches fumantes d'une centaine de boxers. Il y a d'abord, menée par les flûtes graves, une danse des chassiers au dandinement d'ours. Ensuite, donnent à tour de rôle toutes les sociétés de gymnastique de la région voisine. De petits paysans d'une dizaine d'années, costumés en seigneurs des anciennes dynasties, font un simulacre de bataille, sautent comme de jeunes chats. Prodigieux tous de légèreté et de vitesse, avec leurs grands sabres qui tournent en moulinet. Viennent à présent les garçons d'un autre village, qui jettent en hâte leurs vêtements et se mettent à faire tourner des fourches autour de leur corps. Par des coups de poing, des coups de pied imperceptibles, ils les font tourner si vite que bientôt ce ne sont plus des fourches à nos yeux, mais des espèces de serpents sans fin qui leur enlacent furieusement la poitrine. Puis, en un tour de main, plus vite que dans les cirques les mieux machinés, une barre fixe est dressée devant moi, et des acrobates, le torse nu, superbement muselés, font des tours. Ce sont les gens du mandarin, ceux-là, les mêmes qui tout à l'heure nous servaient à table en si belle robe de soie. Et toujours le fracas des gongs, l'incantation des flûtes, la flamme fumeuse des torches. Pour finir, un feu d'artifice, très long, très bruyant. Quand les pièces éclatent en l'air, au bout d'invisibles tiges de bambou, des pagodes en papier mince et lumineux se déploient sur le ciel étoilé, édifices de rêves chinois, tremblants, impondérables, qui tout de suite s'enflamment et s'évanouissent en fumée. Par les petites rues sinistres maintenant endormies, nous rentrons tard, au trot de nos porteurs, escortés des 1000 lumières dansantes de nos torches et de nos lanternes. Vers minuit, me voici seul au fond du Yamen, dans mon logis séparé dont l'avenue est surveillée par les immobiles bêtes accroupies. Sur ma table du milieu, on a posé un souper de toutes les variétés de gâteaux connues en Chine. Des arbres fruitiers, fleuris et encore sans feuilles, décorent mes consoles. des arbres nains, bien entendu, poussés dans des vases de porcelaine et longuement torturés jusqu'à devenir invraisemblables. Un petit poirier a pris la forme régulière d'une sorte de lyre en fleurs blanches. Un petit pêcher ressemble à une couronne de fleurs roses. À part ces fraîches floraisons de printemps, tout est vieux dans ma chambre, déjeté, vermoulu. Et par les trous du palais jadis blanc passent les museaux d'innombrables rats qui me suivent des yeux. Couché dans mon grand lit, dont les sculptures représentent d'horribles bêtes, dès que j'ai soufflé ma lumière, je les entends descendre tous ces rats, secouer les fines porcelaines de ma table et grignoter mes pâtisseries. Et bientôt, au milieu du silence de plus en plus profond des entours, les veilleurs de nuit, qui se promènent d'un pas feutré, commencent à jouer discrètement du claquebois. Dimanche 28 avril. Promenade matinale chez les ciseleurs d'argent, une spécialité dite chez où. Ensuite, dans la partie tout à fait morte de la ville, à une antique pagode demi-croulée sur le sol de cendres, au milieu de fantômes d'arbres qui n'ont plus que l'écorce. Le long de ces galeries sont représentés les supplices de l'enfer bouddhique. Quelques centaines de personnages de grandeur naturelle, en bois tout rongé de vermoulure, se débattent contre des diables qui s'empressent à leur étirer les entrailles ou à les brûler vifs. À 9 heures, je remonte à cheval avec mes hommes pour faire avant midi les 15 ou 18 kilomètres qui me séparent encore de ces mystérieuses sépultures d'empereurs, puis rentrer ce soir même à Icheu et demain me remettre en route pour Pékin. Nous prenons pour nous en aller la porte opposée à celle par où nous étions entrés hier. Nulle part encore nous n'avions vu tant de monstres que dans cette ville si vieille. Leurs grosses figures ricanantes sortent partout de la terre où le temps les a presque enfouis. Il en apparaît aussi de tout entier, accroupi sur des socles, gardant l'entrée des ponts de granit ou bien faisant cercle dans les carrefours. Au sortir de la ville, une pagode de mauvais aloi, au mur de laquelle s'accrochent des petites cages contenant des têtes humaines fraîchement tranchées. Et nous nous trouvons de nouveau dans les champs silencieux, sous l'ardent soleil. Le prince nous accompagne, montant un poulain mongol ébouriffé comme un caniche. Auprès de nos costumes plutôt rudes, de nos bottes poudreuses, contrastent ses soies roses, ses chaussures de velours, et il laisse derrière lui dans la plaine sa traînée de muses.